Chapitre 61. Tour à tour, excepté le glaive et le corse, chaque inspecteur de l'équipe s'enfermait dans une camionnette qui changeait régulièrement de place et gardait l'entrée de l'immeuble en ligne de mire. En renfort, deux brigadiers les accompagnaient durant ces longues heures, à guetter sans relâche à travers les fenêtres fumées d'un vieux véhicule banalisé. Sans succès pour le moment. On avait passé la nuit et une partie du samedi dans le fourgon, soit plus de 20 heures, et David Merlin n'avait pas encore pointé le bout de son nez. Mais la surveillance se poursuivrait tant que l'individu n'aurait pas été interpellé. Dans la matinée, Serge avait interrogé quelques voisins. Les uns décrivaient David Merlin comme une silhouette anonyme. Les autres disaient qu'il vivait totalement en décalé, tel un oiseau nocturne. Et ils étaient catégoriques, puisqu'ils entendaient chaque fois ces multiples verrous résonner dans le couloir. L'intérieur de l'appartement avait été photographié et fouillé par les policiers, ainsi que par les techniciens de l'identité judiciaire. L'absence de paperasse s'était confirmée. Pour l'instant, on avait laissé en plan le matériel lourd et encombrant pour n'embarquer que les documents importants et le cahier listing. Un planton, en liaison radio avec la planque, s'était installé devant la porte de l'appartement. En ce début d'après-midi, tandis qu'Amandier s'ennuyait dans le sous-marin, Einstein et Santucci se trouvaient dans les locaux de l'identité judiciaire. Franck et Florence étaient, quant à eux, assis chacun à leur bureau au cinquième et dernier étage du 36, le nez dans les photocopies des pages du cahier de leur tueur. Pour l'heure, c'était la meilleure chose à faire puisque les mairies et autres administrations étaient fermées. Autrement dit, impossible de retrouver la trace du pédiatre qui avait exercé à Meurin aux côtés d'Escrémieux. L'inspectrice se levait de temps en temps et elle punaisait les informations essentielles sur leur tableau. Franck la sentait à cran, comme eux tous d'ailleurs. Ils étaient à deux doigts d'en finir, mais deux doigts, c'était encore beaucoup trop. L'attente était longue. Bientôt Charcot irait prendre le relais de Serge dans le Soum et rempilerait pour 4 heures. Il ne rentrerait pas à son domicile avant minuit. Et le lendemain, dimanche, il faudrait recommencer, jusqu'à ce que le filet se rabatte enfin sur leur proie. Le Corse et Fayol arrivèrent au bercail en fin de journée. Leur tête de croque-mort n'augurait rien de bon. Romuald regagna sa place sans un mot. Avec un soupir, Santucci ferma la porte et posa un paquet de clichés sur la table basse.
Ce sont les photos de Ligy, les mannequins, les objets et tout le toutim. Vous viendrez vous servir ces cadeaux. Quand l'affaire sera terminée, je crois que ces femmes en plastique aux parties intimes brûlées auront un bel avenir dans notre musée des horreurs.
Il se plaça face à son équipe.
Avant que j'annonce des nouvelles réjouissantes, dites-moi que vous avez quelque chose qui permette de savoir où cet enfoiré se terre.
Franck secoua la tête. Florence s'approcha du tableau, l'air renfrogné.
On a tout lu. Il n'y a que des pages et des pages de délire haineux, de scènes de vie où Merlin décrit les comportements déviants d'anonymes qu'il croise dans la rue ou le métro. Il immortalise ses situations quotidiennes avec son appareil photo et, en gros, il vomit sur la société. Pas de date, aucune mention de lieu, rien sur ses intentions ni sur les meurtres.
Elle montra l'affiche du spectacle de Circé, accrochée en haut de la feuille.
J'ai rassemblé là tous les éléments du cahier qui concernent notre enquête. Jusqu'à présent, le plan du méticuleux nous a menés à elle, Circé. Mais selon toute vraisemblance, la prochaine étape, c'est lui.
Elle pointa l'homme au crâne dégarni.
Photographié à son insu dans son quotidien, comme les autres victimes, ce qui laisse présager qu'on risque de le retrouver dans un sale état.
Comme pour appuyer son propos, l'inspectrice désigna la bouche tordue qui hurlait, puis un autre rectangle de papier glacé.
On le voit ici sur un vieux cliché, en blouse, en compagnie d'André Escrémieux. Il y a donc de fortes chances qu'il soit le pédiatre dont nous a parlé la magicienne. Celle-ci nous a en effet confié avoir été soignée par le père de Delphine et un autre médecin à l'hôpital Meurin à la fin des années 60. Selon elle, la photo sur laquelle elle s'est reconnue, enfant et entièrement nue, a été prise dans le cabinet de ce dernier. Et Escrémieux était là, à ses côtés. Il est probable que les deux hommes aient abusé des mômes ou, en tout cas, leur aient fait du mal d'une façon ou d'une autre.
Cette Circé pourrait nous confirmer que le type chauve est le pédiatre en question.
Sa mémoire est sélective, c'est courant dans les affaires d'abus sexuels. Il y a ceux qui se souviennent parfaitement de tout et ceux qui occultent pour se protéger. Étant donné qu'elle ne sait pas rappeler le visage d'Escrémieux, j'ai peu d'espoir qu'elle nous aide là-dessus. Mais c'est lui, j'en suis certaine. Dès lundi, il faudra que je fasse le forcing par téléphone auprès du Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère. Ils ont dû recevoir notre requête écrite depuis plusieurs jours. Nous avons besoin à tout prix de l'identité de ce pédiatre.
Florence marqua une courte pause, mais elle n'en avait pas fini.
Revenons-en au cahier. Sur chacune des pages consacrées aux protagonistes de notre dossier, il y a une référence au passé. Delphine Escrémieux, âgée de 8 ans, est nue. Son père est le pédiatre inconnu sur une photo de groupe datant vraisemblablement de cette époque-là. Et puis Hélène Lemaire, adolescente, entourée de camarades sans figure.
Pourquoi ce choix?
Regarde, on voit des montagnes en arrière-plan. Santucci approuva d'un mouvement de tête. D'après les gars de Rouen, le maire a vécu en Haute-Savoie quand elle était jeune, rappela-t-il.
Oui, ses parents étaient de vrais montagnards. Selon les collègues, ils n'ont aucun rapport avec la Bretagne ni l'hôpital Meurin. Si personne n'a encore trouvé de lien entre Hélène Lemaire et toute cette histoire, c'est tout simplement parce qu'il faut sans doute remonter plus loin.
Le chef de groupe réfléchit. Si le maire n'est pas allé en Bretagne enfant, ça impliquerait que notre tueur était lui, en Haute-Savoie, dans sa jeunesse. C'est possible, ça, en tenant compte de tous les éléments qu'on possède ?
Florence acquiesça.
David Merlin a pu vivre en Bretagne et se faire soigner à Meurin aux alentours de ses 8 ans, puis déménager en Savoie quelques années plus tard. Hélène Lemaire était âgée de 30 ans, et si on s'en réfère aux descriptions qu'on a obtenues, David Merlin est de la même génération. Lui et le maire étaient-ils dans la même classe au collège ? Auquel cas, il est peut-être l'un de ses élèves au visage découpé, comme il est peut-être l'un des gamins nus qui sont devant nous depuis le début.
Santucci jeta un coup d'œil vers Charcot, qui hocha la tête. Il partageait l'avis de sa collègue.
Le Corse se posta une nouvelle fois devant les photos des mômes. 12 garçons, disposés en 2 rangées de 6, le fixaient nus et effrayés.
D'accord, d'accord. On sait dans quelle bled a vécu Hélène Lemaire ?
Non, j'allais appeler le SRPJ de Rouen pour avoir plus de précision.
Ok, tu récupères l'info mais tu la joues discrète. Évoque des mises à jour de paperasse. Je ne veux pas d'eux dans mes pattes pour le moment. Cette enquête est déjà suffisamment compliquée.
Très bien.
Florence retourna à sa place. Le Corse, lui, revint au centre de la pièce. Il échangea un regard contrarié avec Einstein, poussa un soupir, puis s'adressa à eux tous.
Bon, maintenant passons aux réjouissances. On a un problème et pas des moindres. David Merlin n'existe pas.